Je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais simplement... en fait, j'avais une intro et tout, mais elle n'est plus du tout utile avec tout ce qu'on a vu ce matin. Donc voilà, juste qu'on va continuer à s'émerveiller devant l'amour de Dieu. Et voilà. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi de choisir un texte dans Osée 2. Pour le petit contexte, Osée, c'est un prophète au royaume d'Israël, sous le règne de Jéroboam et jusqu'à la fin du royaume d'Israël. À ce moment-là, le contexte politique est désastreux, les rois s'enchaînent, ils se trahissent tous, enfin bon, bref, c'est pas du tout fun. Et ça va être comme ça pendant toutes les années qui vont précéder la chute du royaume d'Israël, parce que Samarie va être occupée par le roi d'Assyrie et donc le peuple va être déporté. Mais il y a surtout un vrai contexte spirituel défaillant à ce moment-là. Les peuples voisins sont venus introduire le culte de Baal dans le royaume d'Israël. Donc Baal, c'est celui qu'on adorait pour la pluie et la fécondité. Et donc ce culte-là, il est venu s'immiscer dans le culte de l'Éternel. Comme Farid l'appelle, c'est un petit gros mot, ça s'appelle le syncrétisme. Et en fait, le syncrétisme, c'est le processus dans lequel certains aspects d'une religion viennent s'immiscer dans une autre. Et donc ça c'est venu tellement profond dans le peuple d'Israël à ce moment-là, ça vient dans la vie de tous les jours chez le peuple, mais aussi chez les chefs religieux. Donc pour qu'on saisisse un peu la gravité de ce qui se passe à cette époque, il y a des rituels de prostitution, par exemple, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi avec le culte de Baal, qui sont insérés dans le culte traditionnel de l'Éternel, et ça choque personne, ni les chefs religieux, ni le peuple. Enfin, si, du coup, ça choque Osée, qui va être mandaté par Dieu pour venir rappeler une dernière fois son peuple à l'ordre, quoi. Et le livre d'Osée, il commence d'une manière assez particulière avec Dieu qui demande à Osée de prendre pour épouse Gomer, une prostituée reconnue, avec qui il aura 3 enfants. Donc le premier enfant, il doit le nommer Jizréel, en référence à la bataille de Jizréel qui a mis la maison de Jéhu au pouvoir. Donc c'est ceux qui règnent à ce moment-là dans Israël. La deuxième enfant, Louroama, qui veut dire celle dont on n'a pas compassion, on voit au verset 6 du chapitre 1, « Car je ne continuerai plus à avoir compassion de la maison d'Israël en lui pardonnant indéfiniment. » Et enfin, le troisième enfant, Loami, qui veut dire « Pas mon peuple », on voit au verset 9, « Car vous n'êtes pas mon peuple et moi je ne suis rien pour vous. » Donc ici, on a une bonne introduction de l'état en fait, d'Israël à ce moment-là, qui est un peuple infidèle qui se détourne de son Dieu. Et face à ça, on a un Dieu fidèle qui a choisi un peuple tout en sachant qu'il lui serait infidèle, à l'image de Gomer, de Osée qui choisit Gomer comme épouse. Et la richesse de ce livre, elle réside aussi dans le fait que, malgré tout, on continue à voir la fidélité de Dieu et la compassion de Dieu qui ne prend pas fin. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans le chapitre 2, du verset 10 au verset 11. Bah ouais, c'est allumé, là. Bon, c'est pas grave. Je te laisse le faire. Donc, du verset 10 au verset 15, elle, donc ici, il parle de Gomer, mais c'est une image qui illustre le comportement de Israël. Donc, elle n'avait pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile. Je lui ai prodigué de l'argent et de l'or, et ils en ont fait une offrande à Baal. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé en son temps et mon vin nouveau en sa saison. Je retirerai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Et maintenant je découvrirai sa flétrissure aux yeux de ses amants. Et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuers dont elle disait « C'est le salaire que m'ont donné mes amants. » Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Elle suivait ses amants et moi, elle m'a oubliée. Donc on a la première chose qu'on voit ici clairement, c'est le manque de reconnaissance dont fait preuve Israël. Ici, c'est pas juste un peu d'ingratitude, un peuple qui oublie de remercier son Dieu. Non, ici, c'est un peuple qui remercie un autre Dieu. Le syncrétisme, il s'est immiscé ici tellement doucement mais sûrement dans les croyances du peuple, jusqu'à ce que ça devienne normal en fait de ne plus remercier l'Éternel pour sa pourvoyance, mais de remercier un autre Dieu, un idole fabriqué d'une main humaine. Et parce qu'on leur avait dit que c'était le Dieu de la pluie, quoi. Enfin, on est arrivé à un tel point en fait que le peuple a oublié que leur Dieu, celui qui les avait fait sortir d'Égypte et qui les avait nourris pendant 40 ans dans le désert, c'était le Dieu qu'on appelait Jéhovah Jiré, l'Éternel pourvoira. Ils se sont laissés influencer par les croyances des peuples voisins qui leur ont fait détourner leur regard de Dieu pour un Dieu fabriqué de mains humaines. Aujourd'hui, c'est un peu comme si on se... remerciait un robinet pour l'eau qu'il nous pourvoit. C'est juste un objet d'inox, mais on pourrait se dire c'est lui qui nous donne de l'eau. Sauf que non, on sait qu'il y a de l'eau dans le robinet parce que notre robinet il est relié aux canalisations, qu'on est dans un pays où il y a de l'eau potable dans les canalisations, qu'il y a quelqu'un qui a payé la facture d'eau aussi. Donc on sait que tout ça, ça serait un peu bête. Mais je pense que c'est important de se demander est-ce qu'on est vraiment si loin de tout ça aujourd'hui dans nos sociétés ? Est-ce que, par exemple, ça serait pas... s'il y a de l'eau dans les canalisations, c'est qu'on a de l'argent, c'est qu'on a un logement pour nous permettre d'avoir accès à ces canalisations, à cette eau, qu'on est dans un pays qui nous permet d'avoir de l'eau potable. Donc, est-ce que c'est normal de penser comme ça ? Moi, j'avoue qu'au début, je me dis, oui, c'est normal. Sauf que, en fait, non, derrière, ça traduit que... En fait, non, ce n'est pas cet argent qui pourvoit à mon besoin d'eau, ce n'est pas l'État qui pourvoit à mon besoin d'eau, mais c'est Dieu qui a mis cet argent dans mes mains. Et c'est Dieu qui m'a placé dans ce pays. De la même manière que c'est le blé et le soleil et la pluie qui faisaient pousser le blé dans le royaume d'Israël, c'est Dieu qui faisait rayonner son soleil et tomber sa pluie sur le royaume d'Israël. Donc est-ce que ça ne nous arrive pas un peu aussi à nous d'oublier qui pourvoit dans nos vies ? Je sais que personnellement, moi, oui. Un petit exemple, il n'y a pas longtemps, du coup, je viens de finir un stage et j'ai eu un petit salaire, ce qui m'arrive rarement parce que je suis étudiante. Mais du coup, quand j'ai vu cet argent sur mon compte, la première pensée qui m'est venue, ce n'était pas celle de combien est-ce que je vais pouvoir rendre à mon Dieu pour l'argent qu'il a mis entre mes mains et pour sa pourvoyance dans ma vie. Non, la première pensée que j'ai eue, c'était qu'est-ce que je vais pouvoir m'acheter pour pouvoir me faire un petit cadeau parce que j'ai bien travaillé. Alors, ce n'est pas foncièrement mauvais de vouloir se féliciter d'un travail accompli, mais ce que ça traduit ici, c'est la pensée de dire que c'est moi qui pourvois à mes propres besoins, que c'est grâce à moi que cet argent qui est maintenant m'appartient sur mon compte en banque est sur mon compte en banque. Sauf que non. Dans AG 2.8, pourquoi ça marche une fois sur deux ? Bon, c'est pas grave. L'argent, Dieu dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. Toute richesse appartient à Dieu et c'est lui qui pourvoit. Même au travers du travail que j'ai accompli. Et en fait, cette mentalité qui est tellement ancrée en nous, c'est vraiment le fruit de l'individualisme qu'on voit dans cette société. Le fait de dire que tout est pour moi, par moi. Et l'Église, du coup, nous, en tant qu'Église, on est forcément exposés aussi à cette manière de penser. Et toutes les croyances qui vont en découler, parce que l'ésotérisme, le développement personnel, ça sort de là aussi. Et je pense que c'est important qu'on puisse prendre du recul sur ce que la société nous enseigne, même si des fois, c'est discret. Hein, et la manière dont nous le recevons en tant qu'Église, mais aussi personnellement. On peut d'abord interroger si nos Églises, elles font preuve de syncrétisme en faisant des compromis, par exemple, sur les enseignements de la Bible. Est-ce qu'on fait des compromis sur notre vision du mariage, de l'argent, etc. Mais aussi, personnellement, est-ce que nous, on fait preuve de syncrétisme ? Est-ce que, par exemple, je donne la même valeur à la place que Dieu a dans ma vie que à la recherche de mon épanouissement personnel ? Est-ce que je vais à l'église parce que ça me fait du bien, parce que la musique est sympa, que les prophéties, les guérisons, c'est stylé ? Ou est-ce que je vais à l'église pour louer Dieu, apprendre à le connaître et prendre part à l'église qui est son corps ? Et ça, je pense que c'est des questions qu'il est important qu'on garde en tête face à tout ce que le monde nous balance, en fait. Et donc, du coup, en faisant preuve de ce syncrétisme et de sa infidélité, Israël rompt l'alliance qu'ils ont faite avec leur Dieu. Cette loi, cette loi était là pour poser un cadre à cette relation privilégiée que Dieu instaurait avec son peuple. Et du coup, les deux premiers commandements de cette loi, justement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et du coup, en péchant contre Dieu, le peuple se détourne de lui. Ils affirment leur désintérêt dans cette relation privilégiée et dans les promesses qui vont avec. Mais depuis toute éternité, Dieu est un Dieu juste. Le péché a des conséquences. Et on voit la conséquence de cette infidélité au verset 11. « C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé en son temps et mon vin nouveau en sa saison, et je retirerai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. » Dieu retire ses bénédictions. Il ne les retire pas parce qu'il est matérialiste et qu'il se dit si mon blé et mon vin, il n'est pas accepté, il n'est pas pris à sa juste valeur, je ne leur donne plus. Non, il retire car il cherche avant tout le cœur de son peuple. La vraie bénédiction derrière ces biens matériels, c'est Dieu. Lorsque Dieu pourvoit, c'est pour montrer à son Église, à son peuple, sa fidélité, sa grandeur et son amour. Il retire pour amener son peuple à regarder à lui et à remettre leur dépendance en lui, pour qu'ils reviennent dans l'alliance. Et la justice de Dieu, elle n'est pas gratuite. On voit par exemple au verset 13 que Dieu retire les fêtes les fêtes qui étaient consacrées à Baal et qui étaient le lieu en fait de beaucoup d'immoralité. Donc ça a un but, c'est nous ramener à lui et nous détourner du péché. Et comme nous l'avons vu il y a quelques semaines lorsque Farid nous a parlé du fait que Dieu ne change pas, même lorsque la patience de Dieu prend fin et qu'il met en œuvre sa justice, il reste un Dieu plein d'amour qui cherche avant tout le cœur de son peuple. Et la structure de ce passage, elle est intéressante parce qu'il commence à énoncer d'abord l'infidélité du peuple et les faits qui lui sont reprochés. Ensuite, du verset 11 au verset 15, il annonce la chute d'Israël à cause de ces péchés-là. Et au verset 15, à la fin, il revient sur les faits d'infidélité. Donc, il faut savoir qu'à la fin, la chute d'Israël a bien lieu. Hein, malgré les 14 chapitres de ce livre où Osée y rappelle le peuple, le peuple, pendant 25 ans, ne se détourne pas de leur voie. Et donc, la capitale du royaume, Samarie, elle est envahie par... tombe dans les mains de la Syrie et le peuple est déporté. Mais juste avant de revenir sur pourquoi est-ce que cette chute-là, c'est pas la fin, je voulais juste qu'on s'arrête à la fin du verset 15. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Elle suivait ses amants et moi, elle m'a oubliée. Il n'y a pas écrit « elle m'a perdue »,« elle ne m'a plus trouvée ». Il y a écrit « elle m'a oubliée ». Quand on oublie quelque chose, c'est qu'on l'a laissé quelque part. C'est que cette chose est restée à sa place et c'est nous qui sommes partis sans elle. Et en général, on se rend compte de notre oubli une fois qu'on est déjà éloigné. Je me rends compte que j'ai oublié les clés de la voiture sur la table de la cuisine une fois que je suis sur le parking devant la voiture. Mais la bonne nouvelle, c'est que les clés, elles sont toujours sur la table de la cuisine. Oublier quelque chose ne veut pas dire que cette chose n'existe plus. Dieu, il est toujours là, il est fidèle, il ne change pas, il ne s'éloigne pas, c'est nous qui bougeons et qui nous éloignons. Et si aujourd'hui tu as l'impression d'être loin de Dieu, sache que Dieu, il est là. Même si tu es parti loin, même si tu es parti longtemps, Dieu t'attend toujours. Le Dieu patient et aimant qui est dépeint dans la parabole du fils prodigue était le même Dieu patient et aimant pour le peuple d'Israël. Et il est le même Dieu patient aujourd'hui qui t'attend pour que tu reviennes à lui. Et donc c'est pour ça que, cet amour-là, cette patience-là, c'est pour ça que l'histoire ne s'arrête pas à la chute d'Israël. Et Dieu nous révèle son plan plus grand dans la suite du chapitre 2, et il nous raconte son plan de restauration par la nouvelle alliance entre l'Église et Jésus-Christ. Donc on va lire du verset 16 au verset 25. C'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. De là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor, comme une porte d'espérance. Elle y chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon Baal, qui voulait dire maître. J'ôterai de sa bouche le nom des Baals. On ne se souviendra même plus de leur nom. En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai coucher en toute sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai. J'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le vin nouveau et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Je répandrai pour moi de la semence dans le pays et j'aurai compassion de l'Oruama. Je dirai à Loami, tu es mon peuple, et il dira, mon Dieu. C'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Dieu ne s'arrête pas au châtiment d'Israël. Comme nous venons de le voir, Dieu veut utiliser ce temps d'exil pour que le peuple se retourne vers lui. Je la conduirai au désert. Aller au désert, c'est le retour à une terre, un lieu marquant de l'histoire entre Dieu et son peuple. Dieu les y ramène pour retrouver cet état de communion que le peuple avait avec lui pendant ses 40 ans d'errance. Dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas de confort, il n'y a pas l'abondance et les distractions que le peuple connaissait. C'est un retour à l'essentiel. Et cet essentiel, c'est Dieu. C'est là que Dieu veut leur parler. Dieu les séduit pour que le peuple y aille. Il ne fait pas preuve de contrainte, de violence, mais il convainc le peuple d'y aller. Dieu veut retrouver l'amour de son peuple et il fait ça avec douceur. Et je parlerai à son cœur. Dieu y parle à son cœur. C'est une expression qui est utilisée plusieurs fois dans la Bible et elle veut dire parler de manière aimable, encourageante, réconfortante. Dieu est un Dieu doux qui cherche une relation intime avec son peuple. Cette expression, elle pointe à ça aussi. Il ne veut pas raisonner son peuple, le convaincre de l'adorer par son intelligence et la raison seulement. Non, Dieu, il parle à son cœur. Il veut un peuple qui le loue et qui le suit, car c'est le désir de son cœur. Et ce qui est vrai pour le peuple d'Israël est vrai aussi pour nous aujourd'hui. Dieu veut le cœur de son Église. Dieu veut ton cœur. Alors oui, c'est important, par exemple, d'apprendre à défendre la foi chrétienne, de savoir prouver que croire en Dieu, c'est aussi raisonnable que de croire en la science, que de savoir prouver l'existence, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est ultra important pour renforcer notre foi et pour aussi démarrer des discussions autour de Dieu. Mais, ultimement, Dieu ne veut pas des disciples qui le suivent, car c'est logique et intellectuellement raisonnable. Dieu, il veut des disciples dont il a touché le cœur et qui le suivent parce que leur cœur bat pour lui. Matthieu 22, 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il veut une relation avec toi et il cherche premièrement à parler à ton cœur. Mais le problème, c'est que notre cœur de pécheur, en fait, il nous empêche de chercher Dieu par nous-mêmes. Dans Apocalypse 3, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est Dieu qui toque. Notre cœur de pécheur nous empêche de chercher Dieu par nous-mêmes. Mais c'est tellement rassurant de savoir que ça ne dépend pas de nous et de nos émotions changeantes. Il est là, il attend et il frappe à la porte de notre cœur. Et quand il frappe, désolée maman, mais c'est pas comme ma mère, quand elle frappe, elle ouvre en même temps. Non, Dieu, il attend, il est patient, et des fois, c'est vrai qu'il va attendre longtemps. Mais il attend, car son désir, c'est de venir parler à notre cœur, de nous remplir de son amour pour que nous puissions l'aimer en retour. Dans Éphésiens 3, « Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Je ne sais pas si on comprend ce que Paul Dieu dit ici. Cherchons l'amour et l'intimité avec Christ avant toute chose. Laissons le Saint-Esprit travailler nos cœurs afin que ça nous rende capables de comprendre l'amour incommensurable de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons saisir la richesse de cet amour. C'est bien trop grand pour nous. Mais du coup, ça nécessite que nous soyons disposés à le recevoir. Est-ce qu'on laisse la place à Dieu et à son esprit pour recevoir son amour, pour le laisser parler à notre cœur? Ou peut-être qu'à l'image d'Israël, qui s'est laissé lasser de voir les bénédictions de Dieu, est-ce que nous aussi, on se dit pas, j'ai compris l'amour au début de, l'amour de Dieu au début de ma vie chrétienne et maintenant je le néglige, c'est acquis? Ou peut-être que juste on a aussi besoin d'aller au désert pour entendre sa voix. Parce qu'il y a tellement de distractions dans nos vies qui nous empêchent de demeurer dans son amour et d'entendre sa voix. C'est pas pour rien que Jésus, il allait prier et jeûner au désert. Dans Apocalypse 3, je souperai avec lui et lui avec moi. Francis Chan, un prédicateur américain que j'aime beaucoup, il développe cette image du festin avec Jésus. Il va un peu plus loin. Il nous dit, imaginons le festin que Dieu a prévu pour nous. Une table avec tous les mets les plus exquis du monde, nutritivement tellement riche et tellement bon pour notre corps. Et Jésus, il est là, il a préparé tout ça et il nous attend. Et nous, on arrive, sauf qu'on s'est arrêté à McDo sur le chemin et on a le ventre plein de cochonneries et de malbouffe. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On peut manger 2-3 bouchées de ce que Dieu il a prévu pour nous, mais on n'a plus de place pour avoir plus. Qu'est-ce qui remplit ton ventre aujourd'hui? Est-ce que tu remplis de ton ventre des distractions que la société te propose? Le travail, les loisirs, la charge mentale, les réseaux sociaux, ou même juste les mensonges de l'ennemi qui occupent tes pensées? Ou est-ce que tu remplis ton ventre du festin que Dieu veut déverser en toi? Alors aujourd'hui, si tu sens que tu traverses un désert, quel qu'il soit, c'est peut-être que Dieu veut te parler. N'essaye pas de combler le vide que ce désert crée parce que la société et le monde te proposent, mais viens à la source. Viens manger, cherche celui grâce à qui tu n'auras plus jamais faim et soif. Et peut-être qu'il y en a d'autres ici qui se sentent loin de Dieu, qui ont l'impression qu'ils ont le cœur froid, qu'ils ont du mal à ressentir l'amour de Dieu. Du coup, c'est aussi une invitation à se laisser emmener au désert, à volontairement supprimer les distractions, ce qui nous remplit en vain pour entendre la voix de Dieu clairement et laisser son Saint-Esprit travailler en nous. Ça peut vouloir dire jeûner, mais aussi diminuer son temps d'écran ou bien quitter les réseaux sociaux. Mais c'est aussi mettre en place des moments intentionnels de silence et de méditation pour demeurer dans sa présence. C'est aussi lui remettre tout ce qui prend trop de place dans nos pensées. Et Dieu promet qu'il sera là et qu'il nous remplira de toute sa plénitude. Et cet amour que Dieu a pour son peuple ne s'arrête pas là. Déjà, ça serait bien, mais non. Le dernier point que je voulais aborder ce matin, c'est que cet amour, il amène Dieu à conclure une nouvelle alliance. En verset 20, « En ce jour-là, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal. » Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Ici, Dieu, il nous décrit la forme de cette nouvelle alliance. Et ça ne sera pas une alliance sous la forme d'une loi, mais d'un mariage. Personnellement, quand j'entends le mot alliance, je sais pas pourquoi j'ai tendance à m'imaginer une alliance politique, un accord contractuel signé entre deux parties pour protéger les intérêts de chacun. Non, ici, il s'agit d'un mariage. Dieu a prévu depuis toute éternité que la relation qu'il voulait avec son peuple, c'était pas celle d'un maître, mais d'un époux avec son épouse. Je vous présente mon frère, ça c'est le jour de son mariage, alors que ma belle-sœur s'avançait vers lui. Depuis toute éternité, Dieu veut pouvoir regarder à son peuple avec ce regard-là. Celui d'un fiancé qui découvre sa fiancée, promise à lui, dans sa robe blanche, pure, sans tache. La première alliance n'a pas fonctionné à cause du cœur, du péché. À cause du péché présent dans le cœur de son peuple, dans le cœur de l'homme. Donc Dieu savait que quelque chose d'autre devait payer la dot afin que l'épouse puisse paraître blanche aux yeux de l'époux. En Jérémie 31, Voici que les jours viennent où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc qu'est-ce qui va payer cette dot, justement ? C'est le sang de Jésus, 100% homme, 100% Dieu, ayant vécu la vie que nous ne pouvions vivre, sans péché, qui est mort et ressuscité afin que nous puissions rentrer en relation avec Dieu. Grâce à Jésus, le peuple de Dieu, l'Église est maintenant de blanc vêtue et peut s'avancer à Jésus, qui la regarde comme ça. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Lorsque Dieu dit « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion, je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Ça, ça fait référence à la dot justement que le fiancé devait payer pour pouvoir se fiancer avec sa bien-aimée. Et ici, il annonce clairement ce que Jésus va accomplir à la croix. Alors que nous sommes pécheurs, c'est Jésus qui va payer le prix de notre péché. C'est lui qui va nous précéder pour que nous puissions connaître le Père. Il va faire cela pour que la justice soit faite selon le droit, parce que c'est un Dieu. Oui, selon le droit, parce que quelqu'un doit payer justement pour le péché du monde. Il va faire ça par compassion, car c'est un Dieu loyal, et il va faire ça car c'est un Dieu fidèle, afin que nous puissions connaître Dieu. Et le texte finit par « Et j'aurai compassion de l'Oruama, celle qui voulait dire celle dont on n'a pas compassion. Je dirai à Loami, tu es mon peuple, ce qui voulait dire qui n'est pas mon peuple, et il dira, mon Dieu. » Et Paul va reprendre ce passage dans Romains 9. C'est-à-dire qu'il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, comme il le dit dans Osée, « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. » Et à la même où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Paul ici, il rend clair et explicite que ses promesses, elles s'adressent aussi à nous. Peuple de toutes les nations, qui pouvons désormais être appelés fils du Dieu vivant. Cette épouse resplendissante, sans tache et de blanc vêtu, qui fait battre le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est composée de chacun d'entre nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Donc ce matin, si tu n'as pas encore pris cette décision de te repentir de tes péchés, de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, sache que ce message, il te concerne aussi. Jésus est mort à ta place et ressuscité afin que tu puisses connaître Dieu et avoir la vie éternelle. Donc si ce matin t'es interpellé par son amour et que tu sens Dieu te parler, ne repars pas sans être venu voir l'un des responsables pour qu'on puisse parler avec toi et prier. Et ce matin, c'est aussi un rappel que si tu fais partie de l'Église avec un grand E, que tu as donné ta vie à Christ, que tu t'es repenti de tes péchés et que tu cherches à le suivre chaque jour de ta vie, Jésus regarde à toi au sein de cette épouse. Il cherche ton cœur et veut développer une relation intime avec toi. La vie chrétienne n'a de sens que si l'on cherche premièrement à la vivre dans l'intimité avec Dieu. Et cette recherche de Dieu, elle illustre notre marche vers cet époux qui nous attend au bout de l'allée avec ce regard-là. Et ce jusqu'au jour où, au retour de Jésus, où les noces seront enfin célébrées. Et regardez les époux durant les marches des épouses, ça illustre bien effectivement cette manière la manière dont Jésus regarde l'Église, mais c'est qu'une image humaine. C'est tellement un échantillon de la réalité spirituelle de l'amour que Dieu a pour son Église et les croyants qui la composent. Donc qu'on ne s'arrête pas à ça, mais qu'on se laisse vraiment interpeller. Et c'est pour ça que je voulais vous laisser avec quelques questions à méditer. Pour faire un point sur sur notre cœur, notre intimité avec Dieu, et juste se laisser à nouveau toucher par lui. Du coup, ces quelques questions, je vous invite à les prendre en photo et revenir dessus durant la semaine. Est-ce que je réalise que Dieu désire une relation personnelle avec moi? Est-ce que l'amour que Dieu a pour moi, c'est un concept intellectuel qui réside dans mes pensées et mon intelligence, ou est-ce que c'est cet amour-là, il est vivant dans mon cœur? Est-ce que je laisse mes relations terrestres, qui sont parfois teintées de tellement de douleurs, impacter négativement ma vision de l'amour que Dieu a pour moi? Est-ce que je médite sur l'amour que Dieu a pour moi, ou bien je le néglige dans ma vie de prière? Est-ce que je viens le ventre déjà plein pour recevoir ce que Dieu a déversé? Et est-ce que j'aime Dieu grâce à l'amour que j'ai reçu de lui ou par mes propres forces?
Merci Elsa, on peut l'applaudir.